Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. On est dans une série sur le livre de Josué. Aujourd'hui, on est traduit en chinois. Incroyable. Incroyable. Je viens d'apprendre ça. C'est croyable, ouais. Et je vous invite à chercher dans votre Bible le livre de Josué, le chapitre 5 que nous allons lire en entier. On a vu la semaine dernière que le peuple venait de traverser le Jourdain à pied sec, sous la direction de Josué, des souverains sacrificateurs, de l'Arche. Chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens, à l'occident du Jourdain, et tous les rois des Cananéens près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec, les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Achalot, ça c'est le prépuce. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous avons tous des projets. Nous échafaudons tous des plans. Projet de mariage, c'est très à la mode en ce moment à l'EBTM. Projet professionnel, projet de ministère, projet d'acquisition ou de construction aussi à la mode chez nous. Et nous avons besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous voulons sa bénédiction. Nous voulons son soutien, son secours, parce que nous savons, comme le dit le Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Notre Église a pour vision de faire des disciples et de Jésus-Christ dans Toulouse, dans le monde entier, qui célèbrent la gloire de Dieu par leur vie transformée et la joie de le servir en Église. Et pour cela, on a plusieurs projets. Projet de construction, d'agrandissement, ça c'est le projet phare. Un projet d'implantation, on a des projets missionnaires, de soutien d'ouvriers. Et on est comme dans les starting blocks, prêts à démarrer. En tout cas, moi, 200%. On est comme le peuple qui vient de passer le Jourdain à pied sec. Événement qui a semé la terreur dans tout le pays de Canaan. Tous les rois sont terrorisés par le passage. Là, ils sont maintenant face à Jéricho, prêts à bondir sur la ville. Mais juste avant la conquête, qu'on verra au chapitre 6 la semaine prochaine, alors qu'ils attendent un ordre comme « à l'attaque, en avant, chargez !» quelque chose comme ça, Josué reçoit l'ordre de l'Éternel de circoncire les enfants d'Israël. Quand vous venez d'être circoncis adulte, vous n'êtes plus prêt à combattre pour quelques jours. Alors pourquoi ce délai? Pourquoi un tel délai? Un tel délai parce que Dieu ne prépare pas seulement un projet, il prépare un peuple. Il prépare son peuple. Et il en est ainsi pour nous. Nous regardons facilement les projets de nos vies comme la grande œuvre du moment. Et nous avons besoin de Dieu pour qu'elles réussissent. Mais lui a fait de nous son projet. Et c'est son projet qui va réussir. C'est pourquoi, avant la conquête du pays, Dieu nous rappelle son alliance de grâce. Dieu nous apprend à tourner la page. Dieu nous apprend à dépendre de lui différemment. Et puis enfin, Dieu révèle que c'est lui, le général. Et c'est un peu le programme pour les minutes qui suivent. Dieu rappelle son alliance de grâce. On voit ça dans les versets 2 à 8. Josué, après la traversée du Jourdain, Dieu demande à Josué de circoncire la nouvelle génération. Un geste qui peut sembler un peu étrange à l'aube de la conquête du pays promis, mais qui est fondamental. Avant les combats, Dieu rappelle à son peuple son alliance de grâce. La circoncision avait été instituée en Genèse chapitre 17 avec Abraham comme un signe visible de l'alliance de Dieu avec Abraham et avec toute sa descendance, selon laquelle il promettait à Abraham et à toute sa descendance qui allait être nombreuse comme le sable, « Je serai votre Dieu ». Première chose. Deuxième chose, « Je vous donnerai ce pays, le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel ». Et on se souvient que Abraham n'avait rien d'un héros spirituel. C'est pas un cadeau que Dieu fait, c'est pas une récompense, un salaire pour loyaux services. C'est un idolâtre, Abraham, à la base, lorsque Dieu l'appelle et le choisit. Son élection, elle repose entièrement sur la grâce de Dieu. La circoncision devenait donc la marque d'une appartenance reçue et non méritée. Mais ce signe extérieur devait refléter une réalité intérieure. Dieu avait dit à Abraham, début du chapitre 17 de la Genèse, « Marche devant moi et sois intègre ». La circoncision n'avait de sens que si le cœur lui-même était tourné vers Dieu. C'est pourquoi Moïse, en Deutéronome, il dit à cette nouvelle génération, « Circoncisez votre cœur !» Plus tard, l'apôtre Paul expliquera la même chose en Romains chapitre 2, vers la fin du chapitre, versets 28 et 29. Il dit que la véritable appartenance au peuple de Dieu est avant tout intérieure. Il dit « Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement !» Et la circoncision, c'est celle du cœur. La circoncision, c'était aussi un signe indispensable pour participer à la Pâque. On comprend qu'on ne peut participer à la Pâque que quand on a compris que tout nous est offert par grâce. On peut se souvenir de l'agneau et du sacrifice de Jésus-Christ comme on vient de le faire. Simplement, par grâce, on peut s'approcher de ce repas simplement par grâce. Non à cause de nos mérites ou quoi que ce soit. Quand ils avaient pris la Pâque, la première Pâque, ils sont sortis, ensuite ils ont traversé la mer, et puis ensuite, quelques temps plus tard, ils ont repris la Pâque. Et puis là, après cela, ils ont envoyé des espions. Ils sont arrivés presque aux portes du pays promis, et puis ils ont envoyé 12 espions. Vous vous souvenez de ça? C'est Nombre chapitre 13 et 14. Et quand les espions ont visité Canaan, la terre promise, ils sont revenus. Quelques instants plus tard, ils ont fait un rapport. Et ce rapport, dans les 10 qui ont fait un rapport, où ils étaient terrifiés. Ils ont dit, le pays, en effet, c'est vraiment magnifique. Mais les villes sont fortifiées, les habitants sont redoutables. Le peuple refusa alors d'entrer dans le pays. Et il voulut même retourner en Égypte. Le peuple oubliait tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux, et ils avaient oublié l'alliance de grâce. Je vous ai choisi et je vous donnerai ce pays. Le peuple refusa l'entrée. Seuls Josué et Caleb firent confiance à Dieu et appelèrent Israël à avancer. En réponse, le peuple a voulu les lapider. Dieu déclara alors que cette génération incrédule n'entrerait pas dans le pays promis. Israël erra donc 40 ans dans le désert, jusqu'à la disparition totale de la génération rebelle incrédule. Pendant ce temps, la circoncision fut abandonnée, et la Pâque ne fut plus célébrée. L'alliance semblait comme suspendue. Mais en Josué 5, Dieu referme cette parenthèse de 40 ans, 39 ans. Les enfants de la génération incrédule viennent de traverser maintenant le Jourdain. Ils sont circoncis, ils peuvent célébrer la Pâque et entrer dans le pays. Et c'est comme un nouvel exode pour cette nouvelle génération. Dieu recommence avec son peuple et lui rappelle que tout repose sur sa grâce. Ce que leurs pères ont oublié, maintenant il le leur rappelle. Et il leur rappelle pourquoi Dieu a choisi Israël. Et le livre qui rappelle ça, c'est Deutéronome chapitre 7 notamment, dans lequel Dieu dit, pourquoi est-ce que je vous ai choisi? Non pas parce que vous étiez un peuple puissant et nombreux, mais parce que vous étiez le plus petit des peuples, dans lequel ma gloire serait encore plus visible. Et puis il insiste en leur disant, je vous ai choisi parce que je vous ai aimé. Pourquoi je vous ai aimé? Parce que je vous ai aimé. Son amour trouve sa source, non pas dans le peuple, mais en lui-même. Non pas dans les qualités de ceux qu'il aime. C'est comme dans le mariage. Si une épouse demande, est-ce que tu m'aimes? Oui, chérie, je t'aime. Mais pourquoi est-ce que tu m'aimes? Et là, si vous commencez par dire, parce que tu es belle, oh, parce que tu es tellement drôle, parce que tu es compétente dans ton travail, et puis aussi parce que tu es accueillante et excellente cuisinière. Et... alors que se passe-t-il si elle change? Si elle vieillit? Si elle vieillit? Ou si elle échoue? Vous comprenez qu'elle va vivre dans l'insécurité, cherchant constamment à mériter cet amour. La seule réponse qui donne une vraie paix, c'est « je t'aime », point. Souvenez-vous ça, tous ceux qui se préparent au mariage, là, et puis ceux qui l'ont déjà célébré. Dieu nous aime par grâce, point. Non à cause de nos mérites, non pas à cause de nos performances ou de ce que nous accomplissons pour lui. Oublier cette grâce conduit au légalisme. Ça conduit à vouloir essayer de gagner l'amour de Dieu et sa faveur par nos efforts spirituels. Et c'est précisément ce qui menace nos projets, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, dans le travail, dans la famille, dans les études, lorsque nous oublions la grâce, le projet cesse d'être reçu comme un don et devient un terrain de justification personnelle. Nous travaillons plus seulement avec sérieux, nous travaillons pour prouver notre valeur. Alors l'anxiété s'installe. Si notre identité dépend de notre réussite, chaque difficulté commence à être une menace. Un mariage compliqué, un ministère qui stagne, une porte professionnelle qui se ferme, ou un manque de résultats spirituels prennent des proportions écrasantes. Nous avons déplacé notre sécurité de Dieu sur nos performances. Mais Dieu agit envers ses enfants comme un père et non pas comme un employeur. Oublier la grâce produit soit l'orgueil, quand je réussis, soit le découragement ou le désespoir quand j'échoue. Cela nourrit aussi la comparaison avec les autres, le couple plus heureux, le ministère plus fécond, le collègue plus compétent. Et la joie disparaît peu à peu. Le service devient lourd, la prière devient tendue et l'obéissance une tentative de gagner la faveur de Dieu. Et c'est pourquoi, avant les combats de Canaan, Dieu rappelle à Israël, « Vous êtes mon peuple. » Non parce que vous êtes fort, mais parce que je vous ai aimé. Et je vous donne ce pays, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que je vous ai aimé. Et aujourd'hui encore, l'Évangile nous rappelle cette même grâce au travers du baptême, au travers de la scène. Nous avons la vie éternelle. Nous avons une place dans le royaume de Dieu. Nous avons un héritage, toutes ces promesses, non par mérite, mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ crucifié. La grâce ne nous rend pas passifs. Elle nous libère, au contraire, de la peur, de l'échec, et du besoin de prouver qu'on en est quelqu'un de bien. Elle nous permet de travailler, elle nous permet de persévérer, de construire et combattre avec sérieux, mais avec un cœur en paix. Et puis, au verset 9, après leur avoir rappelé cela, voilà la déclaration de l'Éternel. Il dit « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Ici, probablement que l'opprobre de l'Égypte, ça concentre pas mal de honte qui sont liées à l'Égypte et que Dieu déclare aujourd'hui effacées. La honte d'avoir été esclave. Vous savez, la culpabilité est liée à ce que l'on fait. Alors que la honte est liée à ce que l'on est. Et là, il leur dit, vous n'êtes plus esclaves. Vous ne l'êtes plus même intérieurement. Et puis, il y avait aussi une espèce de discrédit sur tout le peuple. Parce que en Exode chapitre 3, Dieu avait dit « Je suis descendu pour faire monter ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel. » Et donc quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il a dit « Laisse aller mon peuple parce que nous on va aller servir dans un pays où coule le lait et le miel parce que Dieu nous a donné ce pays. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 40 ans qu'ils errent dans le désert. Oh, ils sont plus esclaves. Mais ils sont errants. Et au fond, on pourrait s'interroger sur ce qui était le mieux. Et eux l'ont fait et ils ont plutôt dit que c'était mieux en Égypte. Et les Égyptiens pouvaient bien les mépriser en disant, et c'était leur crainte, leur Dieu pouvait les faire sortir d'Égypte, mais il ne les a pas fait rentrer dans le pays promis, là. Il n'a pas été capable de les faire rentrer. C'était pour eux une honte. Puis il y avait l'échec spirituel du désert. La génération sortie d'Égypte a souvent murmuré, a refusé d'entrer dans le pays, a vécu dans la désobéissance. Résultat, ils sont tous morts dans le désert et laissent derrière eux une histoire marquée par l'échec. Mais Dieu déclare, aujourd'hui, tout cela est roulé loin de vous, en faisant miraculeusement entrer le peuple dans le pays promis au travers des eaux du Jourdain, comme on l'a vu la semaine dernière, en renouvelant son alliance de grâce, les moqueries vont cesser. Chez les Égyptiens et chez les Cananéens. Et même si elles ne cessent pas, elles n'ont plus d'impact, plus d'emprise sur nos cœurs. Et comment est-ce possible? Justement à cause de la Pâque. La Pâque est célébrée. Verset le suivant, c'est verset 10. « Souvenez-vous, un agneau sans défaut, sans tache, a été immolé et le sang a été appliqué sur les maisons. Nos fautes ont été roulées sur Jésus crucifié. Il en a fait l'expiation par son sang. Notre passé ne nous définit plus, quel que soit ce que vous avez été autrefois, quelquefois ce que pensent les autres, ça ne vous définit plus. » Les échecs passés ne vous condamnent plus parce que Jésus-Christ a payé pour vos fautes et il a aussi pris votre honte à la croix. Le nom de Gilgal, ça signifie rouler et ça deviendra le lieu de campement par excellence pour les Israélites. Ils reviendront souvent à Gilgal et nous aussi, nous avons besoin de revenir souvent à la croix. Nous souvenir de ce que nos fautes et notre honte ont été roulées de dessus nos épaules sur celles de Jésus-Christ et qu'elles ont été payées définitivement. La culpabilité et la honte nous affaiblissent dans la réalisation de nos projets. Dans la bataille que nous nous apprêtons à mener, la honte, la culpabilité nous arrête. Parce que nous pensons, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Et c'est vrai. Vous n'êtes pas digne. Vous ne méritez pas. Mais comme le Paul le dit aux Corinthiens, il dit, mais vous avez été lavé. Mais vous avez été purifié du péché. Vous avez été déclaré juste au nom de Christ. Alors, nous n'oublierons jamais notre passé. Il n'est même pas souhaitable qu'on l'oublie. Mais notre passé ne nous contrôlera plus. Notre passé ne nous contrôle plus. Grâce à l'œuvre de Christ crucifié. La troisième chose, Dieu nous apprend à dépendre de lui différemment. Dans les versets 11 et 12, il nous est parlé que juste après cette Pâque, la manne a cessé. La période du désert est finie. Pendant 40 ans, Dieu a nourri son peuple avec la manne, c'est-à-dire avec le pain qui vient du ciel, se déposer comme cette nourriture. Ils avaient juste à la ramasser chaque matin et puis la cuisiner de toutes sortes de manières. Et ils se sont nourris pendant toutes ces décennies par ce moyen. Mais ici, ils arrivent dans un pays où coule le lait et le miel. Ils entrent dans un pays avec un sol fertile. Ils n'ont plus besoin de cette provision surnaturelle. Il leur appartient de travailler la terre, de semer et de récolter. Je me souviens, et j'ai raconté cette histoire il n'y a pas très longtemps, quand avec Anne-Sophie, on est parti à l'Institut biblique sur Paris. On était jeunes mariés, on avait un enfant. J'avais démissionné de mon travail, pour autant dire, j'avais aucun droit, pas de chômage. Anne-Sophie était encore étudiante. Nous n'avions pas d'économie, pas de réseau de soutien. Et il fallait trouver un appartement à Paris. Il fallait payer une formation, et puis il fallait se nourrir. Et Dieu a pourvu de manière incroyable, par l'intermédiaire d'un bienfaiteur non-croyant, qui m'a appelé un jour et qui m'a proposé un appartement T4 dans Paris. Mettez-vous à ma place, j'ai posé la question, combien ? Juste pour savoir, quoi. Juste pour rire. Non, gratuit. Je lui ai dit, mais t'as pas bien compris, j'y vais pas un week-end. J'y vais au moins 3 ans. Il me dit, tout le temps où tu seras à Paris, 0. Le loyer, c'est 0. On est resté 5 ans. C'est pas mal, hein? Et puis Dieu nous a conduits à Toulouse. Et là, la manne a cessé. On est allé dans une agence, ils nous ont demandé un loyer. Ah bon? On avait oublié un peu ce que c'était. Mais on a pu, avec nos salaires, on a pu payer un loyer. Et puis ensuite, on a pu acheter la maison qu'on louait. Et on a récupéré notre caution. Et puis on a pu revendre cette maison, puis en acheter une plus grande. Dieu a pourvu autrement. De manière moins spectaculaire, en nous employant, mais toujours par grâce. La grâce, elle n'est pas l'opposé de l'effort. La grâce, elle est opposée au mérite. Le croyant mûr, il agit pleinement tout en dépendant profondément de Dieu. Il est capable de reconnaître la grâce de Dieu dans les deux manières qu'il a de pourvoir aux besoins de son peuple, de ses enfants. Et puis, il en est reconnaissant. En me faisant payer un loyer, Dieu ne m'a pas rendu indépendant, comme si maintenant je suis grand, je peux me débrouiller sans toi. Non, il m'a appris une nouvelle forme de dépendance. À l'aube d'entreprendre la conquête du pays promis, le peuple apprend que Dieu peut leur donner la victoire miraculeusement en faisant tomber les murailles, mais qu'il le fait le plus souvent en combattant avec eux, dans un projet de mariage, dans l'implantation d'une église, dans l'extension d'un bâtiment, dans un projet professionnel, familial, dans la croissance spirituelle. Dieu peut nous secourir miraculeusement, mais il le fait le plus souvent en nous faisant travailler, en nous faisant combattre et persévérer avec lui. Pourquoi ? Mais parce que Dieu ne cherche pas seulement à nous donner un résultat. Il veut aussi nous former comme son peuple. Comme des personnes, des enfants. Dieu ne veut pas seulement résoudre nos problèmes, mais il veut former notre confiance. Il est plus intéressé par ce que nous devenons que par la rapidité avec laquelle il change nos circonstances. La deuxième raison, c'est parce que Dieu nous associe réellement à son œuvre. Il nous rend participants de son œuvre. Et c'est une bénédiction. Il pourrait nous faire un gros don, un énorme don, pour qu'on puisse juste payer tous les artisans. Tac, 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 on fait ça, ouais, on fait ça. Oui. Mais à la fin, je crains que notre joie ne sera pas la même. Dieu garde l'équilibre entre la dépendance et la responsabilité. Si tout était miraculeux, nous deviendrions passifs. Si tout dépendait de nous, nous deviendrions orgueilleux ou désespérés. Et puis enfin, Dieu nous rend participants parce que le combat révèle ce qui habite dans nos cœurs. Quand les choses durent, l'épreuve dure, les motivations réelles apparaissent. Les idoles ressortent. La foi est éprouvée. Dans les projets de vie, le temps révèle si nous cherchons Dieu ou seulement ses dons. Enfin, parce que Dieu veut que nous apprenions la fidélité dans l'ordinaire. C'est pas forcément la chose la plus agréable à apprendre, mais c'est tellement utile. La plupart du temps, la vie chrétienne n'est pas faite de murs qui tombent, mais de prières répétées, de repentance quotidienne, de travail fidèle, de persévérance discrète. Et pourtant, Dieu agit tout autant. Dieu nous fait avancer dans une tension qui est saine, à la fois travailler pleinement et dépendre entièrement de lui. Enfin, il ne prépare son peuple en révélant que c'est lui le général. J'aime tellement ce passage. Ici, nous avons cette rencontre inattendue. Un mystérieux personnage qui a une épée à la main, prêt à combattre. Il apparaît devant Josué. On connaît pas vraiment l'âge de Josué, mais par contre, on connaît l'âge de son copain, Caleb. 85 ans à ce moment de l'histoire. Et on imagine qu'ils sont, ils ont à peu près le même âge. Vous voyez le bonhomme? Il est le successeur de Moïse. C'est pas un rigolo. Il a autorité sur l'ensemble du peuple. Il est le général. Il s'apprête à lancer les hostilités. Il est là au verset 13, on voit qu'il est là devant Jéricho. Il est près de Jéricho. Il examine la chose. Et il se souvient avoir visité la ville. Il se souvient de l'épaisseur des murailles. Il se souvient des géants. Il se souvient des armées qu'il avait vues. Puis il se souvient aussi de ce que le peuple avait pris peur. Il réfléchit là. Comment je vais prendre cette ville? Derrière moi, il n'y a pas un gars qui est militaire. C'est des bergers. Ils savent rien faire à la guerre. Et puis là, il y a un mystérieux combattant qui se trouve là devant lui, son épée à la main, prêt à combattre. Et Josué dit, tiens, je te connais pas, toi, la bataille va bientôt commencer, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Si tu es contre nous, je vais te régler ton cas tout de suite. Si tu es avec nous, alors passe derrière parce que ça va démarrer. J'aime la réponse. L'homme répond, non. Il lui donne deux choix possibles. Est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous? Et objectivement, il n'y a pas d'autre choix possible. Il n'est pas neutre. Il a une épée à la main. Il s'apprête à combattre. Il lui dit non. Non mais, pour ou contre? Pas non. Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et j'arrive maintenant. Maintenant que tout est en place, on attaque. Le bateau est prêt, on attend le capitaine. J'aime ça. Qui est cet homme? Qui est ce personnage? Josué comprend, semble-t-il, immédiatement. La vraie question qui lui, dans la réponse, c'est pas est-ce que je suis pour toi ou est-ce que tu es ou contre toi, mais c'est toi. Est-ce que tu es pour moi? Et là, Josué tombe sur sa face et il adore. Le texte dit il adora. Josué, on sait bien qu'il on doit pas adorer, quoi. Ils ont appris ça dans le désert X fois. C'est pas un ange. Même les anges, on doit pas les adorer. Ils sont des créatures. Mais le chef de l'armée de l'Éternel accepte l'adoration. Il est le créateur, non pas une créature. Il est le tout-puissant. Il est le chef de tous les anges. Il est le chef de ce peuple d'Israël. C'est lui qui ouvre les mers. C'est lui qui ouvre le Jourdain. C'est lui qui fait tomber les murailles. C'est lui qui pourvoit pendant 40 ans dans le désert. C'est lui le chef. Et Josué lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres ?» Et là, je voudrais faire deux remarques. Une remarque d'abord sur l'identité du personnage, pour aller un petit peu plus loin encore. Josué, la réponse du personnage dit « ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est les mêmes mots que Moïse avait entendus là devant le buisson ardent. C'était l'ange de l'Éternel qui était apparu dans ce feu et qui lui avait dit les mêmes paroles. C'est ici l'ange de l'Éternel qui parle. L'ange de l'Éternel, c'est une figure de Jésus-Christ avant son incarnation. Et Josué se prosterne devant lui. Deuxième remarque. Josué lui demande « Quels sont tes ordres ?» et il répond « Ôte tes sandales de tes pieds. Voilà mon ordre. » À ce moment-là, quand il est prosterné devant l'Éternel, il s'attend à avoir un commandement militaire. Il s'attend à avoir une stratégie de la part de Dieu lui-même. Mais le commandement qu'il lui donne, c'est « Ce que je veux, c'est votre sainteté. Ce que je veux, c'est votre transformation. Ce que je veux, c'est votre obéissance pour entrer dans mon plan. » Nous, on vient comme Josué devant l'Éternel. T'es avec moi ou t'es contre moi ? En fait, j'ai un gros problème et j'ai besoin de savoir si t'es avec moi ou si t'es contre moi. Et nous venons à Dieu pour qu'il améliore notre vie. On vient à Dieu pour qu'il soutienne nos projets et qu'il respecte notre calendrier, notre agenda. Si tu me secours, je deviendrai ton disciple. Si tu fais ça pour moi, alors voilà ce que je ferai pour toi. Mais Dieu n'est pas notre assistant. Si vous venez devant Dieu avec des « si tu fais ceci, alors j'obéirai », vous ne venez pas devant Dieu. Vous êtes encore votre maître, votre propre maître, votre propre Dieu. Vous êtes le Seigneur de votre vie. Vous commandez, vous êtes le général et il est votre intendant. Écoutez à nouveau la réponse du chef de l'armée de l'Éternel. Non. C'est lui le général. Ôte les souliers de tes pieds et adore. Mesure la sainteté de celui dont tu t'approches. Fais silence devant lui. Soumets-lui ta vie. Suis-le. Avant même de nous conduire dans ses projets à lui, Dieu nous rappelle son alliance de grâce. Il nous apprend à tourner la page de notre vie passée, de notre honte. Il nous apprend à dépendre de lui dans une marche ordinaire. Et il se révèle à nos cœurs comme le Seigneur de tout. Alors si tu n'es pas encore un chrétien, l'entrée dans les promesses de Dieu ne passe pas par tes efforts, mais par la foi en Jésus-Christ. Crois simplement en lui. Abandonne-toi entièrement entre ses mains. Si tu es croyant, peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui à juste t'arrêter pour revenir à l'essentiel, à mesurer sa grâce, à t'en imprégner, à dépendre de lui. Puis si tu es en lutte, rappelle-toi que Dieu travaille ton cœur avant de travailler tes circonstances. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la joie de t'appartenir, la joie de te connaître comme notre grand et souverain berger, celui qui marche devant nous, celui qui va nous, qui a fait la conquête de nos vies, mais qui a fait aussi la conquête de ce monde, de notre éternité, pour qu'on puisse jouir éternellement, Seigneur, de ta présence et de vivre avec toi. Seigneur, on confesse qu'on est si souvent porté sur des projets, si souvent porté à avoir besoin de toi comme un second, comme un assistant, comme un intendant. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut reconnaître que tu es notre général. On veut reconnaître que sans toi, rien ne peut se faire. On veut reconnaître que nous dépendons entièrement de toi. Seigneur, nous te prions pour que ces vérités pénètrent nos cœurs à un point que nous puissions juste enlever les souliers de nos pieds, c'est-à-dire fléchir devant toi, reconnaître ta sainteté, reconnaître que nous sommes souillés, que nous avons besoin, Seigneur, d'être pardonnés, besoin d'être restaurés complètement. Seigneur, agis au milieu de nous. Bénis, Seigneur, cette œuvre ici. Bénis toutes les églises dans Toulouse, Seigneur. Glorifie ton nom dans toute cette ville. Répands, Seigneur, le parfum de Christ. Glorifie-toi en sauvant encore des âmes. Si, Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas encore confessé Christ comme son sauveur, je prie pour que cette personne puisse le faire dans le secret de son cœur. Et puis qu'elle le manifeste par une vie transformée, par un engagement. Tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Par Jésus-Christ. Amen. Amen.